France Culture.
Merci de vous être prêté à ce jeu qui vous a demandé du travail en plus.
Ça m'a demandé de choisir des textes et en même temps sans tomber dans « regardez ce que j'ai lu, c'est formidable » et tout ça.
France Culture.
Mais à quel moment vous lisez des choses que vous allez lire et relire et qui vous ont fait prendre conscience d'un certain nombre de choses utiles pour votre vie, quoi.
Le book club.
C'est tout à fait comme ça que je les ai reçus, ouais.
Dans la bibliothèque de Thierry Marx.
On va commencer à 15h du
D'accord.
coup.
Je me mets là, c'est ça.
Où vous voulez, si vous voulez vous rapprocher, si vous êtes bien là.
Mathilde Wagman.
Un compagnon du devoir chez qui j'ai été formée me disait souvent « Retiens bien cela, petit, ce n'est pas ton patron qui protège ton emploi, c'est ta curiosité ». C'est ce que vous racontez Thierry Marx dans l'un de vos derniers livres en forme de réflexion sur les nécessaires deuils qu'il nous faut faire dans la vie pour avancer, comme on dit. Au vu de votre parcours qui vous a fait passer du statut de petit gars des rues de Ménilmuche à celui de militaire, puis artisan cuisinier, chef doublement étoilé, entrepreneur, acteur associatif engagé sur les terrains de la formation ou dans le milieu carcéral, on se dit que vous avez bien retenu la leçon. Vous êtes aussi l'auteur d'un grand nombre de livres, et pas seulement des ouvrages portant sur la cuisine, mais encore d'un polar, de récits, dans lesquels vous citez parfois en passant un poème de Blaise Cendrars ou de Baudelaire. Tout cela nous a fait imaginer que vous entreteniez peut-être un certain lien au livre. Dans les textes que vous avez choisi de partager avec nous aujourd'hui, on trouvera un poème d'Aragon, un texte de Rodin sur les cathédrales, un traité du XVIIIe siècle sur l'art de se taire, un autre portant sur le maniement du sabre et des instructions au cuisinier zen. Si devine en creux quelques-uns des fils qui semblent avoir guidé votre parcours, une certaine façon de goûter à des univers culturels divers, à l'art, à l'artisanat, à la passion du geste et à la recherche d'une certaine forme de sagesse. Autant d'éléments que vous aimez aussi partager. Merci de nous ouvrir les portes de votre bibliothèque Thierry Marx et de l'amener jusqu'à notre studio. Bonjour à vous.
Merci, bonjour.
Bienvenue dans le Book Club de France Culture. On est ravis de vous y accueillir et d'autant plus que c'est la toute première fois qu'on accueille un cuisinier dans l'émission. Or, il me semble que peut-être la cuisine, les livres, la lecture ont des choses à se dire. On le verra ensemble, j'espère. Lorsqu'on a eu envie de vous inviter ici, on savait que vous étiez un homme très actif, pour ne pas dire hyper actif. Vous êtes le chef de très nombreux restaurants gastronomiques. Au nord, rue du Faubourg Saint-Honoré, Madame Brasse à la Tour Eiffel, un autre à Saint-Ouen. Vous avez fondé de très nombreuses boulangeries de par le monde. Un réseau d'écoles dont vous vous occupez aussi. Vous êtes le président de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, entre autres. Mais on ne savait pas que vous étiez aussi l'auteur d'un si grand nombre de livres. Dans les mois qui viennent de s'écouler, ce sont pas moins de 3 ouvrages qui ont paru. Ce récit dont je parlais pour commencer, qui s'appelle « Deuil des chemins pour la vie », qui a paru aux éditions Le Cherche Midi. Un dictionnaire jubilatoire de la cuisine engagée, chez HarperCollins, et enfin un livre de recettes, cette fois-ci intitulé avec une petite pointe d'humour en clin d'œil à votre patronyme, le livre rouge de Thierry Marx. Avant même de vous interroger sur votre rapport à la lecture, comme on le fait pour commencer traditionnellement cette émission, un petit mot sur la place de l'écriture dans votre vie. Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour vous? Est-ce que c'est important?
Oui, je pense que c'est une des frustrations des cancres pour avoir été catalogué comme ça et avec beaucoup de justesse à mon avis. Donc le fait de s'émanciper de la peur finalement, de la faute d'orthographe, de la mauvaise syntaxe finalement, le plaisir d'écrire est arrivé très tardivement, mais il est arrivé comme le plaisir de lire. Mais il y avait une forme d'angoisse quand vous ne maîtrisez pas bien une langue, et qui plus est la vôtre, eh bien il faut passer un certain nombre d'épreuves qui vous font à un moment donné aimer la lecture, et la lecture vous permet de mettre du temps entre vos émotions et votre action finalement, et de gérer votre émotion et expliquer votre émotion en l'écrivant, c'est quelque chose d'assez jubilatoire, je le reconnais.
Est-ce que vous vous souvenez où, quand, dans quel paysage vous avez appris à lire?
Vraiment, j'ai appris à lire très tôt, comme tout le monde, à l'école primaire, et avec j'étais assez à l'aise avec la lecture, c'est venu assez vite, beaucoup moins avec l'écriture. ce qui pourrait pourtant ne pas être aussi évident que ça. Et finalement, l'amour des beaux textes, des belles phrases, m'est venu assez tôt. Tout le monde lisait à la maison, et l'école primaire donnait ça. Et ce qui m'a fait détester le texte et l'écriture, c'est le collège, finalement, parce que on était immédiatement sanctionné. Il n'y avait pas d'émotion là-dedans, il n'y avait pas de beaux textes, il y avait que quelque chose qui devenait une torture. Et ça, ça a été compliqué. Donc il a fallu que je rencontre des âmes utiles, finalement, qui me fassent aimer le goût de la lecture, en me lisant des textes, en me montrant des bouquins à lire, en me nommant des auteurs, et finalement en m'accompagnant petit à petit à mieux appréhender la compréhension d'un texte, l'amour d'apprendre un texte, etc., etc., qui fait qu'à un moment donné, vous dites le mot est génial, la capacité à savoir s'exprimer donne une force, et moi qui suis qui pratique l'art martial, comme on dit, eh bien de s'apercevoir que finalement l'éloquence est un art martial assez puissant.
C'est dur ce que vous racontez par ailleurs sur ce dégoût ou ce rejet lié à une façon d'apprendre le français au collège.
Toute l'école primaire a été faite que de plaisir de lire et de découvrir des textes, parce qu'il y avait la découverte d'une forme d'apprentissage et de compréhension des choses. Le collège était devenu tout de suite une sanction, et le pire de cette sanction, c'est d'avoir quitté le collège beaucoup trop tôt pour être évincé de ce collège, pour aller vers des écoles dites de travail manuel, ce qu'on appelait des collèges d'enseignement technique, pour aller faire de la mécanique générale. Et là, on considérait que l'élève devait apprendre qu'un geste technique et que tout le reste n'était que sans intérêt, donc plus d'accès à la lecture, au texte, au beau texte. Donc c'est arrivé très tard, je devais avoir une trentaine d'années, de revenir sur le goût de la lecture et l'envie de lire et de comprendre, et ensuite de ne plus me passer de ça. Mais l'amour des mots est venu aussi avec l'amour des mets, finalement, parce que il fallait lire beaucoup. À l'époque, on ne pouvait pas googliser tout ce qu'on voulait, donc il fallait lire beaucoup pour apprendre des recettes, des textes, l'histoire de ces recettes, ces grands auteurs qui faisaient la gastronomie, Antonin Carême, Escoffier et d'autres. Et finalement, ça me donnait un certain goût de la lecture, un goût du théâtre aussi, des gens qui s'expriment facilement sur une scène, donc en imaginant que derrière il y avait des apprentissages de textes, donc aller chercher ces textes, puis après ces romans, et puis après il y a un écosystème quand vous rentrez dans le jeu des mots, dans le jeu du livre, dans le jeu de l'écriture, eh bien, il y a tout un écosystème qui se met en mouvement et qui vous nourrit, qui vous conteste une telle ou telle légitimité ou illégitimité à connaître ou à ne pas connaître quelque chose ou un texte ou un auteur. Et puis finalement, tout ça s'emballe et vous découvrez votre propre plaisir, finalement, dans cet univers. Et après, je me suis mis à lire des choses qui me construisaient, qui construisaient ma réflexion. Seulement, très tard, j'ai commencé à lire des grands auteurs en me disant que ce serait quand même très 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 bien de lire ces grands auteurs. Et là, je m'apercevais que oui, quand je vois l'écriture camusienne, l'écriture d'Albert Camus, vous dites comment je peux atteindre ce seuil de perfection en sujet, verbe, complément, définir une situation, c'est quand même assez extraordinaire.
Je rembobine quand même un peu, vous avez dit à la maison tout le monde lisait.
Oui.
Tout le monde c'était
papa,
qui
maman, le grand-père, parce que mon père était un amateur de polar, donc ces fameux livres noir avec un petit liseré jaune et avec des titres extraordinaires. Les linceuls n'ont pas de poche, la position du tireur couché, etc., etc. Et ma mère, c'était vraiment les grands textes classiques parce que elle avait vécu une enfance assez terrifiante et une adolescence tout identique. Donc elle avait cette puissance, cette force d'aller chercher de la connaissance pour se construire et monter, gravir les échelons de l'échelle sociale. Parce que quand vous êtes instruit, finalement, ça paraît plus simple.
Ouais, dans votre dernier livre que je citais pour commencer, vous racontez que votre mère, elle a perdu ses deux parents très tôt,
oui,
qui sont morts pendant l'Exode, dans un bombardement en 1940. Ouais. Et vous dites, à un autre moment du livre, que la consommation, c'était pas son truc, ça comptait pas tant que ça. Par contre, il y avait un truc qui comptait dans sa vie à votre maman, c'était la lecture.
Ah oui, complètement. Elle se levait très tôt le matin pour faire deux choses, lire et tricoter. et aller travailler après. Donc elle était assez extraordinaire. Et quand je vous raconte la mort de ses parents sur l'Exode, je savais qu'elle était orpheline, mais j'ai appris ça parce que quand elle est décédée, le prêtre de sa paroisse l'a révélé, mais elle ne l'avait dit à personne. Et c'était étonnant de... Mais je me souviens que dans sa paroisse, elle faisait partie du club de... Comme du club de tricot, mais aussi du club de lecture, d'échange, des livres. Donc ce lien social extrêmement fort, notamment en milieu rural, que peut être le livre, le beau livre. Et cette notion de revenir à ce que j'avais évoqué sur les compagnons, et ce compagnon qui me dit « c'est pas ton employeur qui protège ton emploi, c'est ta curiosité », mais je pense que cette génération, notamment la génération de ma mère, avait compris que l'escalier social qu'il fallait gravir passait par l'éducation et l'apprentissage de belles lettres. Quoi.
Et ça veut dire que quand vous étiez petit, il y avait des livres chez vous, il y avait des livres à la maison? Ou c'était des livres que vos parents empruntaient?
Ah non, 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 il y avait des livres à la maison, des livres qui s'échangeaient, qui se partageaient avec les voisins, la voisine, avec ses collègues de travail. Et mon père, ça traînait sur la table, au pied du lit, enfin, c'était
partout.
Vraiment... Partout, il prenait le métro, sa voiture, il y avait 5 minutes, il finissait son polar.
Est-ce que vous, aujourd'hui, dans l'endroit où vous vivez, vous avez gardé ce rapport-là à l'objet livre, je veux dire, est-ce qu'il y en a un peu partout? Ah. À quoi elles ressemblent, vos bibliothèques?
Trop, beaucoup trop d'ailleurs, parce que ça, quand il y a trop de livres, ça a un côté assez... il y tout et rien, quoi. Et donc, je garde les livres, et bien souvent, il m'arrive de les acheter en double, parce que quand un livre me passionne, je note, je stabilo-boss, c'est pas très joli, mais je surligne, je souligne des textes, des mots que je vais encore chercher après dans le dictionnaire. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui, mais j'abîme beaucoup les livres, donc j'en ai une très très grande quantité de livres anciens, parce que l'objet du livre ancien m'intéresse.
Vous êtes bibliophile?
Oui, parce que j'ai aimé, et j'aime encore, quelques copains bouquinistes. Quand j'étais à Bordeaux, je fréquentais beaucoup l'environnement de Denis Mola et de la librairie Mola. Donc Denis avait toujours « tiens, lis ça ».
Grande librairie bordelaise, aujourd'hui encore. Ouais.
Qui a su préserver cette indépendance par la qualité. Et donc tous les vendeurs de chez Denis Mola connaissent les produits qu'elles vendent, les auteurs qu'elles promotionnent, et c'est ça, c'est passionnant. Donc chaque fois que je croisais Denis, « Non mais lis ça, toi, ça va te passionner », des fois c'était complètement en dehors de mon silo professionnel, mais ça me passionnait, ça m'a nourri, mais ça me nourrit encore de beaucoup de choses, d'une ouverture d'esprit, parce que lire pour lire, si ça ne vous ouvre pas à une réflexion un petit peu des fois formatée qu'on peut avoir comme ça à titre personnel. Donc le livre, l'auteur, ça vous fait voyager aussi, ça vous fait rêver. Moi, le premier livre dont je me souviens qui m'avait été offert par ma tante, c'était L'appel de la forêt de Jack London. Et ce livre m'a passionné, m'a donné le goût de la lecture, bien qu'à l'époque je n'aimais pas ça. Et d'ailleurs, quand je redécouvre quelques années après Bernard Clavel, qui me fait découvrir Aricana, qui était un livre merveilleux, or que j'avais lu de lui uniquement La Maison des Autres. Et j'ai eu la chance de pouvoir parler très souvent avec Bernard Clavel, de boire mon café avec lui. Enfin, c'est un monsieur extraordinaire. Je trouve qu'on parle pas assez d'ailleurs de Bernard Clavel aujourd'hui. Mais il y avait plein de gens qui m'ont fini par enfoncer en moi, au plus profond, le goût du livre.
Et qu'est-ce qui, par exemple, dans L'appel de la forêt de Jack London, que pour le coup vous avez lu assez jeune,
hein, oui, très jeune,
qu'est-ce qui vous a attrapé à votre sens? Qu'est-ce qui vous retient à ce moment-là, alors que par ailleurs, le rapport au livre était peut-être un peu compliqué?
J'ai mis très longtemps à lire ce livre, mais ce livre m'a convaincu que je pourrais m'arracher à mon quartier.
Votre quartier, c'était Ménilmontant?
Pas que Ménilmontant, parce que Ménilmontant, j'y étais plutôt heureux. Les quartiers de ces grands ensembles qui se construisaient dans les années 70, très déshumanisés, que du béton et rien autour, je me disais que je devais échapper à ça. Et très souvent, j'avais cette pensée du livre de Jack London, qui finalement, cette soif de l'or et cet appel de la forêt, je trouvais que ça pouvait m'aider à un jour dire bah je plante tout et je m'en vais quoi.
Et aller vers le grand nord. Ouais. On va continuer d'évoquer votre rapport au texte, à la lecture, à travers les choix que vous avez bien voulu partager avec nous. Mais pour nous y emmener, on va écouter une chanson dans votre dictionnaire jubilatoire de la cuisine engagée, Thierry Marx, l'un des livres qui sont parus tout récemment de vous. Il y a une entrée qui s'appelle Chant. Vous racontez que vous aimez le chant et la chanson. Vos compagnons des devoirs unis, cette fraternité dont vous êtes entré tout jeune, adolescent, pour apprendre la pâtisserie, on chantait beaucoup et qu'il vous arrive encore d'entonner des chants aujourd'hui. Au Book Club aussi, on aime la chanson. Avant de découvrir ces textes donc, on va écouter une chanson qui s'appelle Bleu Fuchsia. Elle est interprétée par le groupe O2N et elle raconte la vie d'un travailleur de Rungis.
Mes mains sont belles, elles ont la forme du travail, les ampoules de la tenaille, pour les plombs que j'ai brisés. Je me souviens du bus de nuit, direction le marché de Rungis. Sur le carreau, je finis ma nuit, au son du peul des Mama Mali. Les étals de fruits lumineux se marrent bien de moi, portant de lourds colis, des cernes pleines sous les yeux. Le client est pas rigolo, il a des blagues salaces. Il renifle son nez d'alcoolo et il crache dans les salades. 8h35, assez pour liche, pour casser une graine, un café noir et un sandwich. J'ai la mère Eugène, y'a plein de sous l'eau, assommé au comptoir. Il compte les histoires, il compte les goulots. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes.
Camion.
Le ciel est triste, je trie des pommes.
Camion.
Décharger les camtars, les muscles exultent. 9h15, le boss tout frais arrive et scrute. Il s'en fait pour son argent, il fait vivre des familles. C'est ce qu'il me dit quand je fais tomber une paire de mangues. Ses pompes disent le contraire, elles brillent au fond du container. Elles disent que j'ai mauvais goût d'avoir des pulls avec des trous. Transpalette, grand palais. Je reste fier de ma race ferroviaire. Les ongles noirs, le gris du quai, le rouge des fraises dans la tête, le vert des poires. Le vendeur me casse les glandes. Il aime pas bien la couleur du préparateur de commandes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Le ciel est triste, je trie des pommes. Bleu fuchsia. Le ciel est triste, je trie des pommes. Bleu fuchsia. Le ciel est triste, je trie des pommes.
Fuchsia.
Le ciel est triste, je trie des pommes.
Fuchsia.
Le ciel est triste, je trie des pommes. Bleu fuchsia. C'est les tristes, je trie des pommes, bleu fuchsia.
On vous retrouve, Thierry Marx, pour la deuxième partie de cet entretien. Vous avez bien voulu vous prêter à ce jeu qui consiste à extraire de votre bibliothèque 5 livres que vous avez amenés ici en studio. 5 textes. L'un d'entre eux porte sur un texte de l'abbé Joseph-Antoine Toussaint Dinoir. C'est un texte paru en 1771 qui s'appelle « L'art de se taire ». Et vous avez voulu nous lire un extrait de la préface qu'en proposent Jean-Jacques Courtine et Claudine Haroche dans l'édition Millon, que vous avez amené là, une petite édition en poche de ce livre. Je me suis dit que pour commencer une conversation radiophonique où on cause, c'était amusant de faire place un peu au silence. Est-ce que vous voulez nous dire d'abord peut-être pourquoi vous avez choisi ce livre-là, comment vous l'avez rencontré?
J'ai replongé dans ce livre et dans l'analyse de ce livre parce que je trouve que ces bruits et fureurs aujourd'hui, ces mots, ces rhétoriques de plateau qui n'ont plus de fondement, qui n'ont plus rien, que de ventiler, de mettre dans un ventilateur épouvantable la peur de l'autre, la peur de tout, la peur du changement, la peur de la crise, et que ces rhétoriques permanentes, eh bien finalement, n'aboutissent plus à rien, et qu'on devrait apprendre à faire silence, à observer, et de poser sa voix et de mettre du temps, comme je l'évoquais, entre l'émotion et l'action. Et aujourd'hui, ce rythme des chaînes d'infos, qui est à mon avis comme ça, qui correspond à notre société, ce rythme des réseaux sociaux devient complètement fou, les mots ne veulent plus rien dire, ils tournent en boucle dans un monde parallèle. Et ça me fait penser à ce que dit Enki Bilal, le dessinateur que j'aime beaucoup. Il dit, il y a un monde à la Matrix maintenant, qui s'est mis en place et qui tourne. 15 secondes, vous êtes un type bien, 15 secondes, vous êtes un salopard, 15 secondes, vous êtes autre chose, 15 secondes, vous êtes un délateur. Et des mots qui ne veulent plus rien dire, qui n'ont plus de sens, qui ne trouvent plus leur sens, donc ils ne trouvent plus leur objectif. Et je trouve que quand je relis ce livre et l'analyse de ce livre, eh bien je me dis, il serait peut-être temps de faire une pause et de remettre des mots dans le vrai monde, et finalement, et de prendre le temps de s'écouter, de s'observer, de se parler, et que ça serve à quelque chose. Et plutôt que de faire en permanence du bruit et de la fureur. D'ailleurs, il m'arrive des fois d'être sur des plateaux où il y a beaucoup de mots, beaucoup de contestations, beaucoup de cris, beaucoup d'agressivité, et finalement, en coulisses, tout le monde est copain, tout le monde est... Mais on a fait le show des mots et le show de la punchline, et il n'y a rien. Et je trouve ça plus qu'étonnant, je trouve ça à la limite toxique, vraiment toxique.
Bon, on vous écoute le lire alors.
Il y a ainsi dans l'art de se taire un appel à la réserve, à la réflexion, à la retenue, qu'il n'est peut-être pas sans intérêt de rappeler en un temps où l'exigence d'écrire, de communiquer, tend à se plier aux lois d'un marché où la pensée devient une marchandise. L'art de se taire peut inviter à réfléchir sur cette hystérisation de l'écriture liée au développement de l'individualisme et du narcissisme contemporain, à résister aux injonctions d'avoir à écrire plus largement peut-être, à l'obligation faite à chacun de s'exprimer. Car la contrainte de parler ou d'écrire est toujours aujourd'hui plus forte et plus générale que l'impératif de se taire. L'art de se taire peut ainsi amener à penser les effets produits sur l'écrit par une théâtralisation de la parole. Le succès des écrits est aujourd'hui souvent lié à une dramatisation de l'oral corporel scénique de l'écriture. Être lisible, c'est désormais être visible. C'est le signe d'une paradoxale indifférence à la chose écrite, d'une certaine désaffection. L'écrit, pris dans les effets de la parole, tend alors à en revêtir les caractères, son immédiateté, mais aussi sa brièveté et sa volatilité, scripta volent.
Un extrait de la préface signée Jean-Jacques Courtine et Claudine Haroche à ce texte du XVIIIe siècle paru en 1771 de l'abbé Dinoir qui s'appelle « L'art de se taire ». Bon, on aurait un peu envie de se taire après ça, mais on va quand même parler, Thierry Marx.
Justement non, on n'a pas envie de se taire, on a envie de poser notre voix, choisir les mots qui nous conviennent pour s'exprimer avec courtoisie et de façon poser ce que j'explique en lisant ce livre, ce que je comprends en lisant ce livre, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre un petit peu sur pause et que cette envie d'oublier le mot pour ce qu'il est et presque dans sa fonction de toucher à l'impératif de quelque chose ou d'arriver à quelque chose, à une finalité, là, on brasse des mots en espérant faire une dramaturgie Et finalement, bah, le mot n'existe plus et il a été écrit pour rien finalement. Et c'est ça qui me trouve. Et quand je lis tout ce qui a été écrit sur l'abbé Diroir, c'est un peu ça. C'est-à-dire que faites une pause, utilisez les mots au bon moment, dans le bon instant, unité de lieu, de temps et d'action. C'est ça finalement. Comment vous allez utiliser les mots au bon moment, comme au théâtre finalement. Or qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ce qu'on nous propose et les mots ne veulent plus rien dire. On fait des titres, pourvu qu'on choque, pourvu qu'on dérange, mais sur le fond, qu'est-ce qui reste ?
Comment est-ce qu'il arrive dans votre bibliothèque, ce livre-là ? Est-ce qu'on vous l'offre ? Est-ce que c'est vous qui allez chercher ?
Je l'ai cherché. J'avais entendu parler ça, j'avais fait des recherches sur le silence, sur les textes, sur les mots. Et bizarrement, un jour, en faisant des recherches, je tombe sur ce livre. Immédiatement, je l'ai acheté, je l'ai dévoré. Et je le relis très régulièrement parce que il m'impose à moi-même de, des fois, faire silence, de dire, bon, j'ai entendu ce que vous dites, de répondre avec deux ou trois mots, mais de pas chercher le conflit mot à mot. Ce qui est détestable par moment, parce que chacun qui refuse de mourir dans le mot va essayer de convaincre l'autre du dernier mot pour avoir vraiment cette impression d'avoir raison, or que ça nous prive de la réflexion.
Une fois n'est pas coutume, Thierry Marx, pour évoquer votre deuxième choix, je vous propose non pas de vous le faire lire, mais puisque nous disposons d'un enregistrement de l'auteur lui-même disant ce texte, on va l'écouter. Il s'agit du fameux poème « La rose et le réséda » de Louis Aragon, paru pour la première fois dans un journal en mars 1943, puis dans le recueil « La Diane française » en décembre 1944, recueil entièrement consacré à la résistance. Ce poème, Aragon l'a dédié à quatre résistants fusillés par les nazis, deux communistes, ceux de La Rose, Guy Moquet et Gilbert Dru, et deux catholiques, Gabriel Péri et Destienne Dorve, ceux du Réséda. On écoute la voix de Louis Aragon.
Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats. Lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive, et qui vivra verra, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, du haut de la citadelle, la sentinelle tira par deux fois, et l'un chancelle, l'autre tombe, qui mourra ? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, ils sont en prison, lequel a le plus triste grabat, lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, un rebelle est un rebelle, nos sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, il coule et se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera, dites flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla. L'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda.
Extraordinaire enregistrement d'Aragon lui-même disant ce texte. Vous connaissiez
Oui, très 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 bien. J'étais un peu biberonné à Aragon avec l'affiche rouge. Mon grand-père était très attaché au poème, au texte d'Aragon. Et en même temps, quand j'ai réfléchi, on voyait ce poème d'Aragon. Je pensais aussi à notre société actuelle et la décision du président de la République de faire entrer Marc Bloch, le résistant, au Panthéon. ce résistant Marc Bloch a été torturé par la Gestapo sans rien révéler de ce qu'il savait et fusillé. Mais il avait pris le temps d'écrire en entrant dans la résistance sur la sclérose de cette France qui n'avait pas vu venir la modernité de l'Allemagne, qui n'avait pas vu qui s'était sclérosé une espèce de bureaucratie.
C'est l'étrange défaite. Hein,
l'étrange défaite. Et dans l'étrange défaite de Marc Bloch, il y a extrêmement... Ils sont extrêmement nombreux les symptômes qui correspondent encore à notre société d'aujourd'hui qui n'arrive pas à se réformer, qui n'arrive pas à comprendre les enjeux d'un pays, d'un monde qui change, et avec tous les drames que ça impose et toutes les oppositions extrêmement rigides qui aujourd'hui s'opposent les unes aux autres. Donc voilà, Aragon, il est peut-être voilà, c'était là une pensée pour Marc Bloch, ce résistant qui va entrer au Panthéon.
Dans plusieurs de vos livres, et le dernier notamment, vous évoquez souvent la mémoire de ce grand-père qui s'appelait Marcel Marx, je crois, qui était arrivé de Pologne tout jeune, il me semble, puis qui était devenu plombier par la suite, qui avait aussi fait la guerre de 14-18, qui avait été blessé, et qui était communiste, semble-t-il. En voyant que vous aviez choisi un poème d'Aragon, j'ai aussi pensé à ce lien-là, hein, Aragon figure de l'intellectuel ou du poète communiste, qui a été membre du Parti communiste pendant des années et des années jusqu'à la fin de sa vie. Quel rapport vous avez avec cet héritage-là, si c'en est un? À un moment dans ce livre, vous dites d'une phrase en passant que vous, quand vous étiez petit, vous avez beaucoup entendu l'idée que les patrons, c'était pas bien, c'était ce qu'il fallait pas devenir. Et vous dites, mais nous, on avait tous envie de devenir patron.
Patron, oui, non, c'est vrai que mon grand-père avait une forme de rigidité d'esprit, mais en même temps il a très vite compris qu'à un moment donné il allait falloir s'émanciper, s'adapter à cette société et accepter aussi d'être chef d'entreprise, ce qu'il avait fait modestement. On avait une voiture à bras et il réparait des chauffages et de la plomberie chez les gens aisés, mais il y avait quand même ce goût de défendre, de se battre pour toutes les injustices, pour le manque d'équité de cette société. Donc effectivement, il avait quitté le Parti communiste, je crois, en 1954, m'a-t-il dit un jour, mais il était resté quand même très proche du monde ouvrier, et notamment de la CGT, bien qu'il soit devenu patron. Donc il y avait ce côté, et puis cette haine de la guerre de 14-18, parce que certes, il avait, comme beaucoup, il faisait partie des gueules cassées, donc on se moquait beaucoup d'ailleurs du physique de mon grand-père, parce qu'il avait vraiment ces stigmates de la gueule cassée, et en même temps, il m'a tellement éduqué dans « prends-toi en main, quoi, reste vertical, on se couche pas pour rien », etc. Donc il y a une espèce de forme de combat, de rigidité, pour résister et de surtout se jamais croire assigné à une extraction sociale. On doit pouvoir s'en sortir, il y a une voie, et il suffit d'y mettre de la volonté, de la rigueur, de l'engagement. Et ça m'est resté. Alors, biberonné avec ces voix d'Aragon, la fiche rouge, moi je suis né en plus dans un local, parce que c'était un minuscule appartement qui s'appelle rue du groupe Manouchian, et cette micro-chambre qu'avait ma mère, parce que mon père était militaire à l'époque en Algérie, et il avait, en me racontant très tôt l'histoire des Manouchians, de l'affiche rouge, des gens qu'on croit s'opposer, or que il m'expliquait tout le temps que des gens peuvent se battre, même s'ils sont différents, de la diversité peut accepter une mission commune de lutter contre la tyrannie. Et ça, c'est resté vraiment dans mes gènes. Mais en même temps, il disait, bah oui, mais il faut aussi apprendre à gagner sa vie, à s'émanciper. Et il disait toujours, je porte une casquette plate, mais je suis aussi respectable qu'un type qui a une haute forme.
Mais ça veut dire aussi que dans cette transmission-là, des textes, des poèmes comme ceux d'Aragon, jouait un rôle.
Mais bien sûr, et plus tard, c'est pour ça que j'ai écrit un livre en prenant cette phrase de Bertolt Brecht, « Celui qui ne combat pas a déjà perdu ». Moi, j'adore cette phrase de Brecht, parce que Bertolt Brecht, quand il dit ça, il a tout dit. Si vous vous croyez assigné à une situation, alors effectivement, on va vous peser sur la tête, sur le cou, et on va vous faire vous coucher pour rien. Or que si vous menez le combat, vous avez une bonne chance de vous en sortir.
Moyenne, une autre phrase de Brecht que j'adore, c'est « Malheur au peuple qui a besoin de héros ».
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'aime aussi beaucoup cette phrase.
Tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats. Lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous les deux étaient fidèles, des lèvres du cœur et des bras. Et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas.
Le troisième de vos choix, Thierry Marx, c'est un livre du sculpteur Auguste Rodin, publié 3 ans avant sa mort, en 1914. Un livre dont je ne connaissais pas l'existence et que je découvre grâce à vous, qui s'appelle « Les cathédrales de France ». Est-ce que vous voulez nous lire d'abord l'extrait que vous avez choisi ou nous dire d'abord pourquoi vous l'avez choisi ?
Non, je vais vous dire d'abord... parce que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à étudier les cathédrales en France, Paris bien sûr, mais Amiens, enfin toutes celles que j'ai pu découvrir, et je trouvais que c'était un lieu de spiritualité, mais aussi de, je sais pas si on peut employer ce terme d'ailleurs, de spiritualité laïque. Il y a tellement d'histoires, de monde ouvrier autour de ces lieux qui deviennent des repères, des protections qui nous abritent, et en même temps, cette volonté d'élever des cintres dans l'espace, en espérant qu'il y ait une vie qui un jour nous emmène vers ce paradis qu'on veut tous atteindre. Je trouve que ces lieux ont une résonance toute particulière, et quand effectivement l'incendie de la cathédrale de Paris a choqué énormément de gens qui n'avaient rien à voir avec le catholicisme, mais qui se sont trouvés perdus, choqués par cette perte d'un repère. Et donc j'ai ressorti ce livre, parce que ce livre je l'avais acheté parce que je travaillais sur la lumière. Donc j'avais un livre de Tanizaki qui s'appelle L'éloge de l'ombre, qui est un livre japonais merveilleux, et puis on échange comme ça avec un libraire, il me dit non mais lis Rodin, parce que alors, ce qu'il a écrit sur la lumière des cathédrales, les pierres, il y a des choses là-dedans qui sont d'une profondeur dans ce qu'a écrit Rodin, que tu vas adorer. Et j'ai adoré, je lis ce livre très 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 régulièrement, et je vais vous en lire un passage. Les cieux racontent la gloire de Dieu, les cathédrales y ajoutent la gloire de l'homme. Elle offre à tous les hommes un spectacle splendide, réconfortant, exaltant. Elle nous offre notre propre spectacle, l'image éternisée de notre âme, de notre patrie, de tout ce que nous avons appris à aimer en ouvrant les yeux. Quand l'artiste sera écouté, nous cesserons d'être aveugles aux magnificences familiales de ces monuments marqués du chiffre de la France, sourds aux accents de ces cloches qui parlent notre langue. Du haut des clochers de nos cathédrales sonne l'espoir. La bonté de la nature et le courage de l'artiste parviendront à tout rétablir dans l'ordre. Ces vieux monuments recèlent tant d'ardeur, ils sont réellement si jeunes. En les étudiant, j'ai retrouvé la jeunesse. Moi, j'ai adoré ce passage parce que mais tout ce livre est passionnant sur les cathédrales, et l'engagement de l'homme autour de ces monuments est tellement puissant que finalement... on a l'impression que les murs ont une âme. Et quand vous êtes dans une cathédrale, que vous avez, où il y a peu de monde, des fois, prenez la cathédrale d'Amiens, très souvent, allez, et vous êtes là et vous avez un lieu de méditation absolument incroyable, pour les catholiques, bien évidemment, un lieu de prière, mais pour tous ceux qui veulent bien se donner la peine de s'y poser et d'écouter ces pierres, finalement, tranquillement, de regarder ces lumières filtrées, il y a un apaisement de l'âme et une élévation de l'âme que je trouve très puissante. Alors voilà, ce livre, je le recommande. Lisez-le, relisez-le, surlignez-le, abîmez-le, mais il faut s'en imprégner.
Les cieux racontent la gloire de Dieu, les cathédrales y ajoutent la gloire de l'homme. Moi, dans cette phrase qui ouvre ce texte, très, très belle phrase, j'ai entendu aussi comme un éloge des savoir-faire manuels, de l'artisanat et du travail énorme qu'a représenté, bien sûr, le fait de bâtir ces cathédrales. Est-ce que c'est aussi pour ça que ces lieux-là vous émeuvent, vous ?
Oui, c'est une mémoire absolument incroyable du savoir-faire ouvrier de la cathédrale, des cathédrales jusqu'au levage de la Tour Eiffel. C'est charpentier, c'est tailleur de pierre. Il y a une connaissance de la main, du geste extrêmement précise, une transmission orale. Bien souvent, ces hommes qui travaillaient sur ces cathédrales, pour la plupart, étaient illettrés. Donc, les compagnons, il y a 900 ans, plus de 900 ans, finalement, émancipés par la curiosité, ces hommes qui auraient été relégués au rang de serfs. Et là, il leur donne une compétence métier dont ils vont s'imprégner, une forme d'ésotérisme, et ils vont grandir dans leur compétence métier et se trouver un positionnement social. Faut voir la puissance et l'intelligence de ces compagnons des devoirs qui ont été ces bâtisseurs de cathédrales, en acceptant bien souvent une géométrie qui arrivait d'ailleurs, qui arrivait d'Orient. Je me souviens d'un charpentier qui expliquait, un vieux compagnon charpentier qui m'expliquait que finalement, une charpente d'église, une charpente de cathédrale, c'était un bateau retourné, que la géométrie était arrivée d'Orient. Et autour de cela, il y a des centaines de métiers qui ont été autour de la construction, etc. Bien sûr, les charpentiers et les tailleurs de pierre, mais les cordiers, les gens qui faisaient des paniers pour lever les pierres dans les cintres, le boulanger, finalement, qui va nourrir ce peuple travailleur. Et il y a une beauté et une richesse là-dedans qui est d'une modernité absolue. D'ailleurs, dans certains écrits des compagnons des devoirs, vous lisez « Salaire honnête ou repos, du premier naît l'harmonie, du second est l'anarchie ». Donc ça veut dire que si votre employeur ne reconnaît pas votre compétence métier, vous le quittez, vous êtes un compagnon des devoirs de liberté. Et la grande force de cet apprentissage dans le faire pour apprendre à élever des hommes dans l'espace et dans la hiérarchie sociale de façon incroyable. Donc j'aime beaucoup cette histoire des cathédrales, cette histoire des compagnons autour des cathédrales et comment l'homme s'est émancipé quasiment sans violence en se rendant indispensable par une compétence métier. Donc toutes les monarchies, et la monarchie, étaient dépendantes de ses compagnons des devoirs parce qu'ils avaient un savoir-faire qu'eux ne maîtrisaient pas. Donc, ils avaient beau avoir l'argent, ils n'avaient pas la compétence. Donc ils étaient obligés de payer un savoir-faire et à son juste prix. Et en même temps, de découvrir chez ses compagnons de devoir déjà l'idée de la mutualisation, c'est-à-dire que j'ai un salaire en tant que compagnon, mais je participe sous forme de pas de don, mais en tout cas de prélèvement sur ma propre solde, à participer au malheur de d'autres compagnons qui peuvent être dans la maladie, perdre leur famille, etc. Donc, une forme de mutualisation, de sécurité sociale de l'époque. Il y a un livre de Barret et Gurgan, deux historiens, et j'arrête là-dessus, mais qui est très intéressant, qui s'appelle « Ils voyageaient la France ». Et c'est extraordinaire à lire.
Ça parle de quoi ?
Ça parle des compagnons et justement de leur histoire du début jusqu'à la fin, finalement, de ces familles compagnoniques qui, des fois, ont vu toutes les grandes œuvres de notre histoire. Ils les ont construites, finalement, que ce soit le Dôme des Invalides, que ce soit les cathédrales, que ce soit les ponts. Et tous les plus beaux monuments sont un héritage des compagnons d'Edouard.
En jouant au jeu d'essayer de tirer un fil comme ça entre les différents choix de textes que vous aviez faits, je me suis dit que, d'une façon ou d'une autre, c'était des textes dont on pouvait avoir un usage pratique, des textes dont on pouvait s'inspirer, soit dans notre manière de mener nos vies, soit très plus concrètement aussi. Est-ce que ça traduit un rapport que vous avez à la lecture et au livre plus généralement, qui est que c'est des objets que vous allez voir aussi pour en tirer des conseils, en quelque sorte?
Oui. Très honnêtement, j'ai très, 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 très longtemps, et je pense encore maintenant, je dois bien l'avouer, je lis utile. Je lis des auteurs qui m'apportent une réflexion que moi je n'ai pas, ou une audace que moi je n'ai pas. Et ça me fait du bien. Donc je me dis, tiens, si vous lisez Bukowski par exemple, c'est très dérangeant, mais vous dites quand même, c'est pas faux ce qu'il est en train de raconter, notamment sur Noël. Donc je lis encore utile. Ouais. Je vais pas aller chercher une histoire d'amourette.
Pas d'évasion, quoi.
Pas d'évasion. Non. J'ai le tort par moment de lire utile. Et c'est vrai que.
Mais c'est pas forcément un tort.
Le livre va m'émanciper, m'apporter quelque chose que je ne serais pas obligé de rendre. Un livre, une romance, je suis moins attaché à cela.
Ça nous amène aux deux derniers textes que vous avez choisi d'évoquer, Thierry Marx. On a commencé à parler de spiritualité, on va continuer. Ces deux derniers textes ont un lien avec le Japon, un pays très cher à votre cœur et qui semble vous avoir suivi comme ça une bonne partie de votre vie, de votre parcours. L'un d'entre eux porte en particulier sur un art martial que vous avez pratiqué ou pratiquez toujours, je crois. Avant de vous entendre nous le lire et nous parler de ce choix, je vous propose d'écouter la chercheuse Florence Brunstein, spécialiste des arts martiaux. C'était dans un documentaire diffusé sur France Culture en 1999 et qui portait sur la philosophie des arts martiaux. On l'écoute.
Les arts martiaux sont une façon de vivre, d'envisager la mort, d'envisager la vie, de faire un tout qui n'est absolument pas dissocié. C'est un peu une façon stoïque d'envisager la vie, de continuer et de l'envisager comme quelque chose qu'on ne peut pas dissocier de la mort. Donc de ce point de vue-là, l'Asie est très proche de l'Occident dans sa façon de concevoir. Il n'y a pas d'opposition réelle pendant l'Antiquité. C'est après, avec la venue de la science, la technique, que les choses vont considérablement se modifier. Par la connaissance qui ne va plus être du tout la même. Donc on va avoir une connaissance qui va être livresque. L'Asie va continuer à avoir une connaissance qui est une forme d'adaptation aux lois naturelles. Nous, les lois naturelles, on va essayer de les expliquer, on va les perdre.
Ce n'est peut-être pas aller trop loin que d'affirmer que le fondement philosophique et l'approche psychologique de l'art du sabre de l'école de Shinkage, tel qu'enseigné par Muyenori, ne sont autres que les enseignements du bouddhisme zen. Le zen perce au travers de l'explication de Muyenori quant à l'attitude mentale correcte du pratiquant du sabre. Il fait très souvent référence de ce vieux maître zen et à la littérature zen pour aider ou renforcer la compréhension de ses élèves. Son approche n'est pas exactement la validation des techniques par l'intermédiaire de concepts zen, mais peu s'en faut, et la valeur qu'il portait à ces concepts ne peut être niée. Muyenori fut sûrement confronté au bouddhisme zen pendant son enfance par la formation religieuse qu'il reçut de son père, Shikusai. Néanmoins, Shikusai semble n'avoir eu qu'une approche générale du zen, l'intégrant dans son propre art, mais sans laisser pourtant de traces évidentes.
Un extrait de la présentation d'un ouvrage qui s'appelle Le Sabre de Vie, qui est un ouvrage signé de Muyenori, donc qui est une personne qui a vécu au XVIe et XVIIe siècle. De quoi s'agit-il ? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cet ouvrage ?
C'était l'enseignant, le maître d'armes de la famille Tokugawa, cette célèbre famille au Japon qui a régné quasiment sur le Japon pendant 200 ans. Et Muyenori n'avait de cesse que d'expliquer qu'il y avait une corrélation entre la spiritualité, finalement, et l'art du sabre. Et d'expliquer qu'il y a la nécessité d'une présence, d'une force mentale pour pouvoir affronter les conflits et s'adapter. Et surtout, d'être en capacité de On dit souvent au Japon le zanshin, d'être présent, présent dans le présent, comme on pourrait le renforcer la pensée, et de se dire, attention, l'homme est perturbé par deux choses, l'impur du désir et cette absolue nécessité de couper avec le désir, pour ne rentrer que dans les faits. Et donc, il considère que le bouddhisme zen, aide à la pratique du sabre et libère le corps et l'esprit pour une meilleure pratique. Donc, c'est très intéressant parce que, au-delà de parler de l'escrime au sabre et de cette dureté que pouvait être la fin du XVIIe au Japon, il y a cette volonté de se dire, est-ce que je suis en capacité de me construire en tant qu'individu unique ? Et ça me paraît important dans une société où on veut être collectivement heureux, où on veut tout faire collectivement, mais à un moment donné, on a oublié de se construire en tant qu'individu. Donc à un moment donné, la rectitude de nos choix, notre rigueur, notre capacité d'engagement, notre régularité là-dedans, eh bien, on peut le puiser dans les codes du Bushido. Et d'ailleurs, ça a été dit sur votre antenne par cette chercheuse qui dit finalement que c'était quoi l'esprit du samouraï ? C'était son intimité avec la mort. Mmh. Il ne rêvait que d'une mort glorieuse. Je n'ai pas de désir, ma règle est l'adaptabilité. Et finalement, la mort ne me fait pas peur, donc je vis beaucoup plus libre.
Comment est-ce que vous vous rencontrez cette pratique-là ? Parce que de fait, je crois que vous avez pratiqué en tout cas à un moment le sabre.
Oui,
et vous avez pratiqué le judo, vous pratiquez peut-être toujours le judo.
Mais c'est par le judo, c'est-à-dire que quand je suis arrivé au Japon, bah, je faisais que du judo dans sa base la plus classique, même de la plus traditionnelle, n'étant pas un judoka de compétition, mais plutôt...
Le judo, vous le pratiquiez dès l'enfance,
toujours,
hein ?
Dès l'enfance, ouais. Oui, ça a été pour moi un premier cadre éducationnel. Et quand j'arrive au Japon, un jour, j'ai la chance de rencontrer l'esprit du kendo, le kendo, l'escrime au sabre. Et puis, un jour, quelqu'un me propose de faire de ce qu'on appelle de la lame nue, enfin du yaido, et je vais m'intéresser à cet art et cette pratique qui demande énormément de rigueur, de concentration, et qui fait un bien fou, au même titre que le kudo ou l'équitation, parce que l'équitation, pour les Japonais, c'est un art martial aussi, mais avec cette même rigueur, cette même verticalité. Je me souviens qu'un professeur disait « ton cou doit toucher le col de ta chemise ». Trop haut, c'est prétentieux, mais au moins tu es en capacité de regarder au-dessus de la ligne d'horizon et de voir un petit peu à 180 degrés ce qui peut, voire presque à 360 d'ailleurs, ce qui peut t'arriver et d'anticiper un petit peu les choses, d'être présent et cette force de la présence. Il y a un très joli film qui montre ça, qui était un assistant de Kurosawa. Kurosawa était mort quand ce film a été fait, mais son assistant a fait un très bon film qui s'appelle Après la pluie. Où on démontre, un samouraï démontre un petit peu, sans avoir à dégainer le sabre, que sa présence suffit à mettre en difficulté ses adversaires.
La présence, cet art d'être présent et dans le présent, c'est peut-être l'un des fils rouges aussi de notre conversation, hein, qui lie à la fois les arts martiaux, une certaine forme de spiritualité, l'art de la cuisine aussi, mais aussi la lecture, me semble-t-il. On n'a toujours pas cité un seul livre en lien direct avec la cuisine, Thierry Marx. On l'a gardé pour la fin. Vous avez quand même choisi un texte qui en parle un peu plus directement. Ce n'est pas un extrait d'un livre de recettes. C'est un texte ancien. Il date du XIIIe siècle, époque à laquelle a vécu Dogen, qui en est l'auteur. Dogen, qui a été le fondateur de l'école Soto, du bouddhisme zen au Japon. Et il s'agit d'un extrait d'un de ses manuels, hein, on ouais. peut dire, qui s'appelle « Instruction aux cuisiniers zen ». Vous nous le présentez ?
Bien volontiers, parce que souvent, on parle de la cuisine comme une succession de recettes et de compétences. Et au XIIIe siècle, Dogen dit « mais c'est pas du tout ça, la cuisine c'est la maîtrise du geste, coupe juste, goût juste, la maîtrise du feu, la cuisson, et la maîtrise du temps. Le temps pour faire, ce qui fait de vous un cuisinier professionnel, il y en avait besoin dans les temples, et le temps, la saisonnalité ». Et autour de cela, il a bâti une cuisine. D'ailleurs, au XXe siècle, Alain Chapelle dit « la cuisine, c'est pas que des recettes ». Il y a une histoire autour, il y a une nature, il y a un écosystème autour. Et je vous lis ce texte. « Un plat préparé avec de riches ingrédients n'est pas nécessairement supérieur, et un bouillon d'humbles légumes n'est pas nécessairement inférieur. Lorsque vous cueillez ou préparez de vulgaires plantes sauvages, faites-le sincèrement. » de tout votre cœur et traitez-le avec autant d'égard que les produits les plus rares. Le vaste océan, qui pourtant reçoit d'innombrables rivières, a une unique saveur. Et le vaste océan de la nature originelle ne fait pas de discrimination entre les subtiles saveurs d'un mets délicat et le goût frustre d'un bouillon d'herbes sauvages. De même, quand vous faites croître le germe de la voix et que vous nourrissez l'embryon sacré, mais raffiné ou vulgaire sont une seule saveur. Il y a un vieil adage qui dit « La bouche d'un moine est comme un four ». Rappelez-vous qu'une herbe sauvage peut nourrir le sein embryon et donner naissance aux germes de la voix.
Raffiné ou vulgaire sont une seule saveur.
C'est ouais. C'est magique ces mots, parce qu'on a oublié de lire ce 13e siècle de Togen sur le bouddhisme zen et notamment sur la cuisine du bouddhisme zen. Or qu'on est là à longueur de commentaires sur la cuisine, or qu'il n'y a pas de conflit entre tradition et innovation, il n'y a pas de conflit entre un style de cuisine et un autre, il n'y a pas de conflit entre un bistrot, un bouillon et un restaurant où on a une façon de transformer la cuisine pour avoir une cuisine d'auteur. Tout ça est parfaitement acceptable si le produit est respecté et la nature est respectée.
Un dernier petit mot, Thierry Marx, vous nous avez dit quand même pour commencer que les livres de recettes, hein, pour le coup ces modes d'emploi qui ont leur poésie propre aussi en un certain sens, ont joué quand même un rôle pour vous faire revenir d'une certaine façon vers les livres et la lecture après un moment où dans votre adolescence vous étiez un peu éloigné de tout ça. Est-ce que chez vous, il y a une section de votre bibliothèque qui en comporte un certain nombre des livres de recettes ?
Ah oui, oui, il y a... En gros, il doit y avoir 500 ou 600 livres de recettes. Et il y en a...
Ah oui, c'est pas rien.
Il y en a 150 qui sont des livres très rares. Très, très, très rares. Et notamment les livres d'Antonin Carême. Et d'ailleurs, c'est Antonin Carême qui va finalement me faire étudier Talleyrand. Parce que Talleyrand fera Antonin Carême. Et
c'est-à-dire
c'est-à-dire que Carême est un cuisinier, un pâtissier d'abord, et puis un cuisinier ensuite. Il écrira Le pâtissier royal, tout ça. Mais en fait, c'est un enfant qui commence à 5 ans sur les fortifs de Paris à travailler chez un pâtissier. Il est très doué. Et il va rentrer au service de Talleyrand Périgord, le fameux diplomate. Et c'est Talleyrand au château de Valençay qui va guider un peu les pas et la notoriété d'Antonin Carême. D'ailleurs, on va dire que Carême sera considéré comme un ministre, mais Talleyrand va influencer au travers des mots, en instruisant beaucoup Carême, les beaux-arts, la belle écriture, les beaux tissus, les beaux... Et il va nourrir intellectuellement Carême, qui va devenir un cuisinier extraordinaire et qui va écrire des choses merveilleuses sur le lien social de la cuisine. Et pour lui rendre hommage, souvent, Talleyrand disait « Donnez-moi un peu moins de ministres et un peu plus de cuisiniers. »
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amère, je ne veux pas pour moi, laissez-moi
Un petit clin d'œil pour se quitter au cuisinier Rémi, le rat du dessin animé Ratatouille, avec cette chanson interprétée par Camille. Un très grand merci à vous, Thierry Marx, d'avoir été avec nous et de nous avoir ouvert les portes de votre bibliothèque aujourd'hui. Je rappelle le titre de vos derniers ouvrages, Deuil des chemins pour la vie, aux éditions du Cherche Midi, le dictionnaire jubilatoire de la cuisine engagée, c'est chez HarperCollins. Et enfin, le livre rouge de Thierry Marx, 40 recettes pour bien manger sans se ruiner. Si comme moi, vous manquez parfois d'idées pour nourrir vos proches et avez besoin de suivre des recettes pour faire la cuisine, celles-ci sont à la fois faciles à faire et délicieuses. À la réalisation aujourd'hui, c'était Colin Gruel, à la technique Ruben Carmazine. Un grand merci également à l'équipe du Book Club, Marianne Chassor, Apolline Limosino, Cyril Marchand, Oriane Mignot, Jeanne Aléos et Alexandre Alaï-Begovic. Tous les épisodes de ces visites de bibliothèque se réécoutent sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.